Les 14 heures.
Vous faites du déjà vu, Madame Lancaster?
Have we met?
On se connaît?
Ouais. On se connaît.
Mais c'est de la merde!
Bonjour, bonsoir et bienvenue dans Déjà Vu, l'émission cinéma qui parle des films et de leurs remakes. Mieux connus, meilleurs que l'original ou tout simplement inutiles, on est là pour les comparer et pour trancher lequel est le meilleur. Je suis accompagnée de trois personnes autour de cette table. Le premier est cuisinier dans un lieu de convivialité en plein air situé sur une île dans une vallée lointaine et de surcroît gourou. Quand il ne cuisine pas des aliments à la couleur douteuse, il se sert de ses couteaux et plaques de cuisson pour décapiter ou brûler des étrangers. Mais attention, il agit toujours masqué. Bonjour Maxime.
Bonjour. C'est totalement fictif. La police, s'il vous plaît, entrez chez vous.
Violence.
Elle est professeure d'une école pour jeunes filles et prend bien soin de leur enseigner les principes d'une sexualité libérée. Sur son temps libre, elle danse nue avec ses copines au milieu de dolmens afin de fêter la fertilité. Bonjour Mélissa.
Namasté.
Et notre invitée a été appelée mystérieusement pour mener l'enquête et rétablir la justice au sein de cette émission. Mais attention, dans le respect de la foi chrétienne. Bienvenue Nathan.
C'est totalement vrai. Bonsoir.
Bonsoir.
Donc Nathan, on t'avait déjà reçu pour notre épisode il y a un petit moment déjà sur... Oui. Maman, j'ai raté l'avion.
Eh oui, mon deuxième film préféré.
Après le film qu'on va chroniquer aujourd'hui.
Exactement, exactement.
Bien sûr. Vincent étant resté bloqué au Burning Man, on le salue tout de même.
Enjoy.
On espère que tu reviendras.
Ouais, je l'imagine comme dans l'épisode de Malcolm où ils font des dingueries.
Ou voilà. Dans. Ou c'est quoi le truc J'irai dormir oui. Chez vous.
Oui, il prend des champignons, il est pas bien du tout.
Il est resté bloqué, on ne sait pas
écris-nous
dans quel
Vincent.
Sens.
Vincent,
écris-nous, n'hésite pas.
Avec un message de fumée peut-être dans le ciel.
Oui, si tu arrives à avoir du réseau. Ouais. Donc, si vous avez survécu au rituel païen du 1er mai, déjà bravo.
Bravo.
C'est une double victoire parce que cet épisode est fait pour vous. Nous allons parler du film britannique The Wicker Man, autrement appelé Le Dieu d'Osier.
Les dieux d'Osier.
Tout le monde dit ça. Réalisé par ça Robin Hardy en 1973 et son remake américain avec Nicolas Cage, réalisé par Neil LaBute en 2006.
Ouais.
Alors, est-ce que vous aviez vu ces films, Mélissa?
Absolument pas. Je ne connaissais pas non plus. J'en ai appris, j'en ai entendu parler que récemment.
Ok, Nathan?
Alors oui, j'avais vu ça. En fait, j'avais un ami qui en parlait beaucoup sur Instagram parce qu'ils ont sorti la version remasterisée il y a 2 ans, un truc comme ça. Et du coup, je l'avais vu un peu par hasard à la télé avec mes parents. Ce qui est pas... Enfin, toutes les scènes ne sont pas hyper appropriées. Et en fait, j'ai beaucoup aimé. Et par contre, le remake, j'ai tardé pour le voir parce que j'avais peur d'être déçu. Je garde mon avis pour plus tard.
Suspense.
Et Maxime?
Alors moi, je connaissais l'existence de ces films, mais vraiment, c'était une image un peu lointaine. J'avais les images de la fin. On va pas trop spoiler, même si j'imagine que les gens qui écoutent s'en fichent un peu.
Principe de l'émission.
Mais je connaissais pas trop le principe, mais je connaissais beaucoup des films qui s'étaient... très librement inspiré de l'original. Donc c'est toujours un plaisir de voir les œuvres fondatrices de certains genres.
Mmh. Et toi, Géraldine ?
Et moi, je n'avais pas trop connaissance de ces films-là. J'avais vu la bande-annonce dans le cinéma que je fréquente régulièrement, puisqu'il y a eu en effet la version remasterisée. Et donc ils l'ont repassée, et juste en voyant la bande-annonce, ça m'a donné... très envie, parce qu'on voit des images vraiment hyper marquantes. Et puis, je ne connaissais pas non plus le remake, donc j'ai découvert pour l'émission. Est-ce
tant
qu'on
de
se lance
ah
dans
bah,
un résumé?
Je n'attends que ça, je n'attends que ça.
Allez,
alors, je vais essayer de le résumer.
Bon voyage.
Okay.
I could a tale unfold whose lightest word would harrow up my soul. Freeze thy young blood.
Thank you.
am here to investigate the disappearance of a young girl. Where is Rowan Morrison?
If Rowan Morrison existed, we would know.
I suspect murder.
Sergeant, I've already told...
In the name of God, woman, what kind of mother are you that can stand by and see your own child slaughtered?
You are the fool, Mr. Harvey.
You're liars.
Donc The Wicker Man, c'est un classique apparemment du cinéma britannique, pas forcément grand public pour autant. Donc en tant que spectateur, nous découvrons le sergent Neil Howey, un policier écossais sacrément chrétien, qui se rend sur l'île isolée de Summer Isles pour enquêter sur la disparition mystérieuse d'une jeune fille nommée Rowan Morrison. Il a reçu une lettre anonyme signalant sa disparition et son sens aigu du devoir le pousse à agir. Arrivé en hydravion sur cette île reculée, difficilement accessible, il découvre une communauté qui pratique d'anciens rituels païens et qui se montre d'ailleurs peu coopérative. Donc au premier abord, personne ne semble connaître la jeune Rowan. L'accueil est vraiment glacial, à commencer par la propre mère de Rowan qui nie son existence. Plus Howey creuse, plus les comportements des insulaires deviennent troublants, presque moqueurs. Il interroge des personnages étranges et pittoresques. La maîtresse d'école, Miss Rose, qui enseigne aux enfants les cycles de fertilité au lieu des mathématiques. Le propriétaire de l'auberge, sa fille Willow, qui est séduisante et énigmatique. Et voilà. Mais Howey reste fidèle à ses convictions, résiste à toutes ses tentations et toutes ses tentatives de le désarmer, on va dire. Surtout, il rencontre Lord Summerisle, qui est le maire charismatique ou le maître de l'île.
Oui.
Il est interprété donc par Christopher Lee. Et celui-ci défend une logique implacable des croyances païennes de sa communauté. Pour lui, le culte de la fertilité, des saisons, de la nature, c'est ancestral et c'est vital. C'est une société finalement autosuffisante qui vit selon ses propres règles, mais des règles que Howey a du mal à comprendre. Plus il enquête, plus il est décontenancé par les croyances des habitants. Ils ont une sexualité décomplexée, ils vénèrent la nature, ils chantent en permanence, ils se roulent nus dans l'herbe. Tous nient connaître Rowan, mais certains indices quand même sèment le doute. Il y a une photo manquante de la récolte de l'an passé, il y a un bureau d'écolière vide. Voilà, les signes sont là, il se trame quelque chose. Howey en vient à croire que Rowan va être sacrifié lors du festival païen du 1er mai Beltan. Convaincu de devoir la sauver, il se déguise en bouffon pour s'infiltrer dans la procession du rituel. Il finit par la retrouver, il pense la sauver, mais en fait c'était lui la victime désignée pour le sacrifice, car il remplit tous les critères du candidat parfait, selon les croyances de l'île, un homme vierge, volontaire et profondément croyant. Le film se clôt sur une scène marquante. Howey est enfermé vivant dans un gigantesque homme de paille, le Wicker Man.
L'homme d'osier.
Désespéré, il récite des psaumes pour s'en sortir, mais il finit quand même brûlé vif au sommet de la colline, pendant que les habitants chantent en cercle joyeusement pour bénir la future récolte, tout en regardant les flammes l'engloutir.
Très bien.
Ouais. Quelle ambiance!
La fin est très
voilà.
Visuelle. Hein.
Si ouais. Vous voulez passer un bon week-end.
It's a phenomenon known as déjà vu.
Que dire?
Que dire? Ben déjà, on peut dire peut-être que c'est une adaptation.
Oui, bah, c'est l'auteur roman, du scénario.
Ah enfin, oui, c'est même. C'est oh là là, que de liens. Donc c'est David Piner.
Peut-être. Je dis peut-être une bêtise. C'est peut-être pas l'auteur original.
Ok, allez ouais. Vérifier par vous-même.
Parce que, là, c'est pas mettez-y un peu du vôtre, là, c'est bon.
Donc c'est un roman qui avait été écrit en 67 et le film date de 73, donc c'est pas si longtemps.
Mm-hmm. On va un petit peu dévoiler les coulisses. Moi aussi, je suis allé le même jour que Géraldine à la séance de visionnage dans notre cinéma de notre ville. Et il y avait une petite...
Qu'on salue.
Salut mon pote.
Salut vous. Et, bonjour bon, Jean-Marc.
Donc il voilà, y avait une petite introduction sur le film. Et donc le réalisateur, en fait, à la base, fait plutôt des documentaires. Donc on peut voir un petit peu ce style-là, bah, notamment au tout début avec l'arrivée en hydravion et tout. Ça, c'est où choyait nature. Quoi, ça explique pourquoi il n'y a pas une mise en scène moderne, quoi. c'est assez académique. Et en fait...
Le contenu l'est un peu moins. Quoi.
Oui, ouais, voilà, c'est ça.
C'est et au niveau de l'image et des plans.
C'est ça. Et en fait, le film lui tenait vraiment à cœur. C'est un film qui a été assez mal reçu, enfin mal reçu, assez peu reçu et peu distribué au niveau de sa sortie. Et c'est plutôt après, avec le bouche à oreille, qu'il a pris beaucoup d'importance, mais comme plein de films. Hein. Par exemple, la version qui est sortie en 73 n'était pas la version complète. Donc si vous revoyez le film maintenant, vous allez peut-être voir la version complète et vous allez peut-être voir qu'il y a certaines scènes qui n'ont pas la même qualité d'image parce qu'en fait, ce n'est pas les masters originaux qui ont été récupérés. Mmh. Il y a notamment une scène où je crois qu'il est dans l'auberge et il va sortir. Il y a des gens qui font une sorte de partout sur la plage. Et en fait, on a l'impression que c'est vraiment tourné par quelqu'un d'autre.
Dans le cimetière, non ?
C'est ouais,
oui,
cimetière,
plutôt dans la forêt, cimetière.
Donc voilà, c'est des morceaux recoupés parce que le film avait été un petit peu charcuté par les producteurs. Cependant, Christopher Lee, pendant toute sa carrière, quand on lui parlait de ce film-là, il disait que c'était l'une de ses meilleures expériences et il était toujours très fier de parler de sa participation à ce film.
C'est les partous.
Alors que le mec a quand même fait Dracula, ouais, il a joué dans Le Seigneur des Anneaux. Parce qu'en plus, il était déjà très connu à cette époque-là. J'imagine qu'il avait fait déjà plusieurs des Dracula.
Oui. Ouais, ouais.
Donc c'est aussi fou qu'il ait accepté, quoi. C'est l'équivalent de, je sais pas, comme si il y avait un nouveau réalisateur qui demandait à... Non, peut-être pas Gérard Depardieu.
Comment trouver un exemple ?
Est-ce qu'on a quelqu'un ? Non, mais ouais, c'est très cool d'accepter ce genre de projet. Après, j'imagine qu'il était peut-être payé en LSD, je sais pas.
Ça le changeait peut-être d'un rôle fantastique. C'est un rôle beaucoup plus réaliste au final.
Ouais, un peu fou quand même. Mais...
Ouais.
Du coup, le bouche à oreille, c'était potentiellement des hippies qui étaient défoncés en fin de soirée et qui se le mettaient.
Et puis l'actrice qui joue Willow, c'est une actrice qui a été assez connue parce qu'en fait, elle a joué.
En Buffy ?
Dans des. Elle a joué dans des films de Cassavetes, des trucs un peu. Pas alternatif, mais un peu, comment dire ?
Des trucs de hippie, quoi.
Des trucs de hippie controversés des années 60-70, qui s'appellent Les Conspirateurs, Les Cannibales, des trucs comme ça.
Okay.
Et elle a été James Bond Girl.
Oh, dans lequel, tu sais ?
L'homme au pistolet d'or.
Oh.
Elle est pas, c'est pas celle qui a la peinture sur elle ? Non, je sais plus.
Dans James Bond ?
Ouais.
Ah, je ne sais pas du tout. Non.
Cette impression de déjà-vu.
On se connaît ?
Ouais. On se connaît.
Et c'est un film très, très musical aussi, on peut,
oui.
On peut le dire.
Oui.
Extrêmement. Et les musiques sont marquantes et sont un peu détonnantes parce que c'est quand même un truc plutôt thriller, horreur quand on raconte le film.
Mais oui, ils sont joyeux.
Et pourtant,
quoi.
C'est des musiques. Alors, je n'ai plus en tête là, mais
non,
trucs très
mais
joyeux.
Assez,
genre,
comme une autre. Enfin, ouais. Voilà, guitare, chant dans
c'est
le bar.
C'est la fête du maïs.
Déjà, la première nuit dans l'auberge, quand il arrive, il y a une première chanson. Je crois que c'est la première qu'on entend. Bah, ça me met déjà mal à l'aise.
La chanson, c'est genre la fille du patron. Elle est bien.
Ils chantent tous en chœur, avec des gros plans un peu à la visiteur. Quoi.
C'est
ils sont un peu tous bourrés.
Les paroles sont horribles.
C'est vraiment la fille du patron, elle aime le cul. Puis tu vois le patron qui est hyper souriant derrière.
C'est un peu genre, vous pouvez prendre une nuit, puis plus s'il y a affinité.
C'est un peu la passe, quoi.
Ouais.
Et elle sourit.
C'est son rôle.
Et je me souviens, pendant la séance, la chanson un peu marquante, c'est le professeur avec tous ses élèves autour de l'arbre.
Ah oui.
Où en fait, il y a tout un truc où dans la salle, il y a un peu des rires d'angoisse, quoi, parce que c'est théorique. Enfin, moi, ça m'a théorisé.
There was a tree, in the tree, there was a man.
Ça monte, et t'es là genre,
Oui, c'est un peu genre comme un conte randonnée où on accumule toujours un truc par-dessus.
Ouais. Mais qui revient au début. C'est très cyclique, les paroles. Et, ce qui est intéressant, c'est que toutes les paroles ont du sens, parce que ça nous dévoile leurs croyances aussi.
C'est cyclique, comme les cycles...
Comme les saisons.
De saisons, il faut pas de la fertilité, voilà. Tout. Et puis, en plus, ils tournent autour d'un poteau. Donc, il y a un truc
qui
très cyclique.
Qui, littéralement, représente le sexe masculin, ils le disent.
Ah ouais.
Oui, je crois que les petites filles, justement, dans la classe, qui voient... Oui, voilà, c'est ça. Genre, elle leur apprend... Ceci est un symbole phallique.
Alors, je vais balancer une anecdote tout de suite.
Allez.
Les petites filles dans la classe... Figurez-vous que ma collègue de bureau, sa mère qui est écossaise, elle a joué dans le film.
Oh.
Et au niveau des dates, bah, je pense que c'est une des gamines à l'école.
Est-ce que c'est celle qui a 28 ans parce que j'ai lu aussi qu'il y avait dans toute la classe, il y en a une qui est adulte. Et en fait, quand tu le sais, tu te dis, ah bah oui, mais elle est vraiment très grande.
C'est énorme.
Je lui ai dit que je faisais le podcast ce soir. Et puis du coup, elle m'a demandé de faire une capture d'écran du film où on voit la classe pour...
Pour qu'elle puisse voir si... Est-ce que tu sais si elle avait bien vécu le tournage ?
Ah bah je pense, parce que quand je lui ai parlé du film, direct, elle m'avait dit « Ah ma mère, elle a joué dedans. »
Ouais, en mode de bons souvenirs, quoi. Ouais, pas en mode « Oh mon Dieu,
c'est non, son non. traumatisme à vie. »
J'imagine, du point de vue des actrices, tu vois, si tu restes juste une journée de tournage, tu sais pas que c'est trop chelou le film.
Bah ouais. Le lieu est sympa. Hein.
Oui, en plus, oui, ça a l'air très joli.
Et ouais, du coup, il y a aussi une vibe très années 70.
Ah oui.
Parce que moi, j'aime beaucoup les films des années 70 parce que je trouve qu'ils se permettent des trucs niveau réalisation qu'on ferait plus maintenant. Parce que maintenant, on dirait que c'est des plans qui sont moches ou qui servent à rien ou quoi. Et eux, ils foutent quand même ça et ça donne une vibe un peu spéciale. Genre, la scène un peu étrange où l'officier est dans sa chambre et il y a la fille du patron qui essaie de le chanter en mode sirène pour rentrer dans sa chambre, tout ça, où t'as l'ambiance qui est vachement hypnotisante, la musique est bien et tout, et elle se met à faire un truc très bizarre où elle est toute nue et puis elle tape sur les fenêtres, oui, elle tape un peu partout, mais ça fait ridicule, quoi. Mais ça fait partie des petits plans. Tu te dis, ok, bon, bah, ils ont fait le truc.
Ils ont choisi de laisser ça.
C'est
okay.
ça.
Ouais, mais c'est une petite ambiance, ouais. En effet, très 70s.
Mais moi, 70s, ça peut m'énerver dans le sens, on s'en fout, allez, on consomme la drogue, c'est cool. Ouais. Et là, il n'y a pas que ça. Parce que d'un côté, ils ne sont pas idéalisés non plus. Oui, ne fait pas rêver non plus. Enfin, en fait, les deux extrêmes, que ce soit d'être complètement libéré ou complètement rigide, tu te dis, bon, ce serait bien de trouver un entre-deux, quoi.
Parce que lui, il lutte vraiment parce qu'il veut rester
hypocrite, quoi.
Il veut rester vierge avant le mariage et tout ça, mais il a déjà 40 ans. Ouais. Je sais pas quel âge il a, mais...
Ouais, c'est ça.
Il est en souffrance, hein, quand
il est en souffrance. Il transpire, et il lutte pour pas lui ouvrir, et pour pas voir, en fait, ce qu'il est en train de voir. Le dégradant.
Même si, clairement, leurs croyances ne font pas rêver, déjà parce que ça mène à un sacrifice, donc forcément, tu peux pas difficilement soutenir ça.
Oh.
Mais le message est sympa, je trouve, sur le côté... finalement, les siennes sont pas beaucoup mieux ou beaucoup plus, on va dire, entraînantes que l'autre.
Moi, c'est la partie que j'ai vraiment préférée dans le film. Lui, il arrive avec plein de certitudes. Bah, déjà, il est policier. Donc, vu que c'est sur une île qui, théoriquement, appartient au domaine de l'Écosse, lui, il arrive en disant « je fais figure d'autorité ». Sauf qu'en fait, très vite, il se rend compte que les gens s'en foutent totalement de son autorité et qu'il a beau répéter qu'il est policier, ils sont déjà « ouais, c'est ça ». Et très vite, il se rend compte aussi que sa religion à lui, qu'il considère comme acquise, les autres, ça fait pas mal d'années qu'ils l'ont plus. Et on comprend d'ailleurs, parce qu'il y a une église, mais l'église, elle est laissée à l'abandon. À un moment, je crois qu'il dit « Mais est-ce que vous avez des prêtres, puis votre église ?» Et quelqu'un dit « Oh, ça fait pas mal d'années qu'on s'en sert plus. » Donc en fait, on a compris qu'il y a eu vraiment tout un truc de christianisation et que bah, vu que c'est une communauté, on dirait, livrée à eux-mêmes, ils ont fait leur choix de se dire bah, « ça nous convient pas, nous on va faire quelque chose qui nous convient. » Et lui, dans son cerveau, bah, c'est pas possible en fait. C'est assez sympa de voir comment il est genre « mais le Christ
ouais,
quoi !»
ils sont marginaux.
Bah, oui, quoi, tu vois, ils vont être perdus. Alors qu'au final, le message est pas trop lourd, j'ai bien aimé, mais le côté sacrifice, finalement, religion chrétienne, t'as quand même une sorte de sacrifice aussi.
Oui.
En fait, il est mis un peu face aux propres incohérences de sa religion, mais... que lui a décidé de suivre tête baissée. Ouais. Et eux, ils sont là, bah, en fait, nous, on croit à la vie. Enfin, on pense au cycle, on pense qu'on se réincarne. Il fait, mais quoi, c'est pas possible. Enfin, c'est pas envisageable pour lui que ça se fasse autrement. Quoi.
C'est ça. Et puis en plus, on voit qu'eux ont fait un choix, que c'est vraiment en tant que communauté qu'ils ont choisi de renoncer à la religion et aussi à être très dépendants du continent. Alors que bah, lui, c'est tout l'inverse. Quoi. Il représente aussi le colonialisme, enfin le...
Ouais.
Oui, l'impérialisme.
Après, d'un côté, tu peux comprendre qu'il ait envie de protéger une jeune fille qui serait à la merci d'un espèce d'une espèce de communauté étouffante comme ça. Enfin voilà, c'est compliqué en fait, c'est pas non plus tout blanc, tout noir.
D'ailleurs, du coup, pour revenir à cette jeune fille qu'on cherche pendant tout le film...
Rowan Morrison.
Rowan. Je reviens sur la scène à l'auberge qui, je pense, m'a un peu marquée. On voit toutes les photos pour la fête de la récolte. Donc le 1er mai, il y a toujours une jeune fille qui est choisie comme reine, en gros, de la fête, quoi. Il y a dans l'auberge un mur avec toutes les photos de chaque année avec les jeunes filles.
Ouais, entourées de la récolte, avec des fleurs.
Et puis, en fait, il y a juste un cadre qui est décroché et on voit carrément la trace du cadre et tout, le clou dans le mur. Et là, ils sont tous là. Ah non, non, il n'y a pas de photo, pas du tout. Et en fait, c'est comme si c'était plus c'est gros, plus ça passe. Ouais. Au début, tu te dis qu'il n'est pas là par hasard, mais en même temps, t'as un doute quand même. Tu te dis, mais ils sont cons, quoi.
Oui, en fait, on se dit, mais comment ça peut passer, quoi.
Oui, c'est ça.
et puis mettre un chien, t'es remplacé par un truc un peu random.
Non, mais là, même pas, tu vois. Il y a juste un clou.
Et ouais, et puis dans l'auberge aussi, dans le truc qui commence à te mettre la puce à l'oreille, tu te dis c'est bizarre, il y a quand même la tête du tenancier où il a vraiment un visage particulier. Tu croirais un mélange entre Moe dans les Simpsons et Burns dans les Simpsons.
C'est un Simpson.
Et quand les gens chantent, t'as un plan sur l'officier qui regarde ce qui se passe, tout ça. Et derrière lui, t'as le tenancier qui est flou et qui, à un moment, ouvre un peu plus les yeux. T'as juste ses yeux qui brillent en flou derrière. Moi, je trouve que c'est une des images marquantes du film.
Oui, carrément. Et puis après, ce qui peut aussi mettre la puce à l'oreille, c'est quand il va voir justement la mère de Ron. Il rencontre l'autre petite fille, donc Myrtle.
Et ben, sa mère qui dessine des lièvres.
Sa mère prétend qu'elle n'a qu'une fille, etc. Et que c'est elle, Myrtle. Et elle est en train de dessiner, ouais. Et elle dessine un lièvre. C'est clairement un message pour lui dire que ben, le lièvre, c'est lui, quoi.
Ah, ouais. Il est chassé.
Moi, j'avais pas compris.
Ah bon ?
En même temps, je pense qu'il y a plein de trucs cachés que je comprends.
Il y a tout un truc autour des lièvres, en fait. Et en gros, c'est le seul moment où il se retrouve face à quelqu'un qui est une petite fille, donc qui est innocente. En tout cas, elle lui fait comprendre par le dessin que...
Ouais. Mais ouais, c'est vrai que puis les lièvres, ce qui est utilisé dans les courses comme appât un petit peu aussi. Donc quand il y a ça, le dessin. Après, quand il pense avoir trouvé la tombe de Rowan, tombe d'ailleurs, alors qu'en fait, ils n'utilisent plus vraiment les tombes. Ouais. Il l'ouvre et il y a un lièvre dedans. Et il y a plein de petits symboles aussi dans le cimetière. Il y a une femme qui allaite et lui, il lui dit de se pousser. Enfin, un peu un truc entre respect des morts, mais en même temps, la vie prend le dessus. Et lui, il supporte pas que ce soit pas dans
la piscine de notre région, quoi.
Vous n'avez pas honte, madame ? Vous avez été en public.
Mais sur une tombe, mais vous êtes immonde, madame.
Vous êtes dans un pays chrétien.
Bah non, mais c'est non, vraiment
si
ça.
Si seulement ça se passait en 2025.
Bon, après, ma personne, j'irais peut-être pas allaiter sur une. J'irais allaiter sur vos tombes.
J'irais allaiter sur vos tombes. Le nouveau scandale.
Bah non, mais c'est vrai que. En fait, ce qui est assez drôle, c'est que lui, très vite, il est plutôt outré par le blasphème. Bah, forcément, il cherche toujours Rowan, mais bon, il y a tout un moment où on sent qu'il est choqué, quoi. Et jusqu'à la fin, en fait, il va y avoir cette confrontation.
Ouais.
Alors moi, je veux bien faire le jeu du ça se peut, ça se peut pas.
Ah.
Je trouve que le plan, quand même, des villageois est un peu complexe. Bah, leur plan, c'est on va envoyer une lettre d'appel pour que le mec vienne. On n'est pas sûr que ça soit le candidat idéal. Donc en plus, du coup, il risque de se faire choper, quoi.
Et comment ils l'ont trouvé, d'ailleurs ?
Bah oui, en fait, moi, c'est tout ça. Je me dis, bon, c'est faut accepter, quoi.
Ouais, faut accepter qu'ils connaissent tout.
Ouais, ils envoient des lettres à tous les,
bah, tous les inspecteurs vierges.
Tous les policiers incels.
Ils ont hacké un compte Insta sur WhatsApp.
Ouais, c'est ça.
Y a-t-il un annuaire des policiers vierges catholiques?
Bah, je pense qu'ils envoient à plusieurs et que justement, finalement, le destin fait que celui qui aura le plus de zèle, qui est prêt à prendre un hydravion, à inspecter sur une île qu'il connaît pas, ce sera celui qui est vraiment... qui lâche pas le morceau, quoi. Qui sera prêt à se mettre dans des situations pas possibles.
Vierge, quoi. C'est très compliqué.
J'ai pas compris si c'était
sous
signe ou s'il était vraiment vierge.
Est-ce qu'il est ascendant scorpion?
Mais ce qui donne après du sens à tout le film, parce qu'en fait, tout le film est un test pour lui. Il arrive dans un monde tellement absurde que... à tout moment, n'importe qui aurait pété un câble. Ouais.
Et Willow, à un moment, elle lui dit « Mais vous partez ce soir, non ?» Parce qu'elle sait que le lendemain, c'est la fête, quoi, c'est donc c'est le sacrifice. Mmh. Donc c'est un peu genre le tester pour voir s'il va vouloir aller jusqu'au bout de son enquête.
Exactement. Moi, ma scène préférée, c'est plusieurs scènes, c'est quand il pète un câble et qu'il commence à fouiller chez tous les... tous les habitants, mais tu te dis, en fait, ils sont tous starvés. Tu sais, tu vas chez le boulanger, il est en train de faire des brioches en forme de soleil. Je sais plus, t'as les petites filles qui sont cachées dans les placards.
Une brioche en forme de corps humain, mais à échelle, quoi.
T'as plein de signes hyper flippants où tu te dis, ça va mal se passer.
Et d'ailleurs, c'est dans cette scène-là où t'as vraiment le côté documentaire. Parce que d'un coup, c'est filmé à la première personne et t'as les gens qui parlent directement à la caméra pour dire bah, ça, c'est ma brioche pour le festival.
Oui, j'ai bien aimé, moi, ça.
Ouais, ça change, en fait, ça switch sur une ambiance.
C'est ça. Et ouais, ça s'enchaîne. Et puis, d'un coup, toi, t'avais un monde fermé parce qu'à chaque fois, ils lui disent non, on ne donnera pas d'infos. Et d'un coup, t'as accès à leur, un peu leur intimité ouais. et tu te dis, ah oui, putain, c'est ça leur quotidien.
Et c'est là où c'est intéressant, oui, où ça passe au documentaire, parce qu'on rentre dans l'intimité.
Ouais.
Et dans le genre scène intime, la scène de baise dans le cimetière. C'est sûrement du coup un plan rajouté comme t'avais dit Maxime.
Ah, de dehors quand il les observe par la fenêtre.
C'était pas dans la version originale.
Ok.
Et en fait, ils l'avaient vraiment filmé, mais c'est quand ils ont fait le remaster où ils ont remonté, ouais.
Ok. Et bien, en fait, là, on passe à une caméra à l'épaule direct. On voit pas très bien, c'est dans la nuit et tout ça.
Il y a une
ça.
Sorte de freeze frame. Enfin, j'ai l'impression
oui,
que
la
cadence d'image bouge. Moi, je me dis, mince, le cinéma, il est cassé. Et en fait, non, c'est juste la pellicule, elle est cassée.
Et oui, le truc de l'armoire, là, avec les enfants dans l'armoire, il va dans une des
les
maisons.
Les masques.
Et il ouvre une armoire, puis il y a une petite fille qui tombe, on a l'impression qu'elle est morte.
Et en fait, elle faisait
une blague.
Et en fait,
c'est...
c'est l'humour local.
C'était un prank.
On peut pas juger, hein. c'est la culture, hein. c'est comme ça.
Non, ils sont assez spéciaux.
Ouais.
Ils mangent des haricots bizarres aussi.
Ouais. C'est un film vraiment que... Quand j'ai vu des extraits, je ne sais plus si tu l'as regardé là, mais j'ai l'impression d'avoir vu des extraits où je me suis dit, oh, je ne vais jamais supporter. Et une fois que j'étais dedans...
Ah, t'es happée, hein.
J'étais happée, j'ai même pas mis en accéléré. franchement, c'est un... Ouais.
Moi, je sais que j'ai eu des images en tête pendant plusieurs jours après.
Ouais, pareil. C'est ce que tout le monde s'accorde un peu à dire. C'est pas forcément un excellent film, mais c'est un film
qui a une patte.
Qui reste, quoi. C'est ça, en fait, on va se souvenir de certaines scènes.
Il y a parfois des images subliminales aussi. Au moment, justement, quand il lutte pour pas aller dans la chambre avec Willow et tout, j'ai toujours pas compris pourquoi, mais il y a des gros plans sur des escargots.
C'est
un truc sexuel,
c'est juste dégueu, en fait. C'est mouillé, c'est.
Ouais, voilà, moi,
je croyais que tu allais voir une image de Thibaut Inchep qui fait non, on n'y va pas, damn, ne cède pas.
Tu vas finir en procès, gars.
Peut-être que s'il y a un nouveau montage. Et ça serait ça.
Tout à fait.
Ou un nouveau remake après celui de 2006.
Mon Dieu. J'ai déjà vu ça.
Je pense que pour cette région de l'Écosse, c'était quand même un gros événement d'avoir ce film-là et tout.
Ouais. D'ailleurs, les lieux sont devenus assez cultes, mais ça peut être un peu un côté pèlerinage.
Bah, carrément.
Ouais. C'est comme... Je sais pas, tu sais, ici fut tourné. Enfin, t'as des petites plaques commémoratives, quoi.
Dans sûrement. Le même genre, t'en parlais un peu à l'intro, Maxime. Les films qui ont été et séries qui ont été influencés par The Wicker Man, t'as Midsommar, t'as The Third Day avec Jude Law, c'est aussi sur une île en Angleterre. Où là, par contre, ouais, c'est à fond en mode pèlerinage. Ils voulaient même faire un espèce d'épisode en direct avec le public qui pouvait venir sur l'île, tout ça.
Ah ouais.
Il n'y a pas eu un épisode...
De 12 heures.
Il y a eu, ouais. En fait, ils ont dû le faire comme ça parce qu'il y avait le Covid et du coup, ils ne pouvaient pas faire venir le public.
Okay.
Et dans le même genre, tu as aussi Hot Fuzz. Je pense qu'il y a une influence parce que c'est le policier de la grande ville qui va sur vraiment le trou du cul de la campagne avec une communauté un peu chelou.
For the greater good. Et d'ailleurs,
oui, il se passe des trucs trop bizarres.
Et l'acteur principal de Wicker Man, je l'ai vu dans le casting de Hot Fuzz, c'est un des vieux encapuchonnés, quoi.
Ok.
Et tu parlais de Midsommar, je sais pas si ça a été conscientisé comme ça au départ par le réalisateur de The Wicker Man, mais du coup, c'est devenu un peu aussi un style de film d'horreur, c'est le folk horror, où justement, on a toujours des éléments communs. Pas forcément un sacrifice, mais...
Des codes que tu comprends pas.
Des rituels
différents.
D'un isolement d'une personne qui ne vient pas d'ici. Moi, je connaissais Midsommar, mais j'avais jamais vu d'autres films de ce type-là. Et c'est vrai que si t'as déjà vu Midsommar et si tu vois Wicker Man, t'y penses direct, quoi.
Ouais. Qui fonctionne alors, plus avec Wicker Man et un peu moins, entre guillemets, avec Midsommar, c'est que Midsommar, ils vont littéralement dans un autre pays. Donc en fait, le côté dépaysé, étrange, se justifie parce que c'est des Américains qui vont en Europe et en plus dans un pays scandinave. Et ce qui fonctionne très bien, je trouve, dans Wicker Man, c'est que lui, il arrive dans un endroit qu'il pense être...
Oui, mais c'est isolé, t'as un côté, il est à la merci, il peut pas s'en aller comme il veut.
Oui, mais en fait, il est d'autant plus surpris d'être en décalage culturel. Parce que pour lui, il va arriver en terrain inconnu. Et en fait, il se retrouve justement littéralement comme s'il était à l'autre bout du monde, alors que en fait, c'est juste à côté de chez lui. Et je trouve que c'est assez puissant ce truc-là de se dire, bah, c'est des gens en communauté, alors que normalement, c'est des... ils me ressemblent, ils parlent la même langue que moi, normalement, ils ont le même dieu que moi.
Ouais.